a demandé aux artistes de jouer trois fois, une fois par jour. On leur a demandé aussi de voir les autres spectacles. Et je pense que vraiment, vu la diversité des spectacles présentés, moi je dirais qu'il n'y a pas un point fort. Il y a chacune des représentations est un point fort.
Et comment justement se porte la scène culturelle européenne indépendante? Vous qui essayez justement de bâtir des ponts entre sensibilités artistiques diverses et variées.
Je pense qu'elle se porte à la fois très bien et à la fois elle n'a pas forcément des aboutissants commerciaux visibles. Et c'est ce qui la rend forte par ailleurs. Et donc les compagnies qu'on a voulu inviter sont des compagnies qui sont émergentes dans le sens où leur travail est assez neuf pour eux, mais qui présentent un travail qui n'est pas axé sur le vendre nécessairement immédiatement dans les circuits traditionnels. Et donc le festival propose de montrer des choses qui ne sont pas forcément montrées ailleurs actuellement.
C'est parfait. Merci beaucoup Mathieu Leloup.
Merci.
Bon festival.
Merci.
Au revoir. Et je précise que c'est au théâtre de Ménilmontant à Paris, Lucas.
Dany, toujours un festival, mais d'un autre genre maintenant. Il y a dans nos contrées, en France, un joli petit village dont le nom a inspiré un festival érotique.
Oui, les villages de Bèze, dans les départements de la Côte d'Or, a créé pour la première fois cette année les festivals des cultures érotiques Eros in Love, qui aura lieu ce week-end. À l'origine du projet, la photographe Roxane Gauthier. Bonjour Roxane Gauthier.
Bonjour.
Vous avez largement participé à l'organisation du festival Eros in Love, qui commence samedi prochain, entre photographie, lecture des textes, performances, botanique, cinéma. Les programmes ont l'air d'être très bien étoffés. Comment aborder l'érotisme, surtout quand on organise un festival, sans être graveleux?
En effet, oui, c'est le côté compliqué de ce thème-là. Comment ne pas être graveleux? Alors, en proposant une programmation fine et diversifiée, il me semble. Et moi, surtout, ce qui me semblait essentiel, c'était de donner la parole aux femmes. Alors là, cette année, dans le programme, on a une majorité de femmes artistes qui nous proposent des choses dans le festival. Voilà, surtout. Enfin, moi, c'était mon point de vue à moi.
Selon vous, la femme est synonyme de finesse d'esprit?
Oui, peut-être, oui.
Alors, le public pourra également participer à un masterclass, justement, sur les plaisirs féminins, mais aussi écouter des enregistrements coquins de l'acteur Denis Lavant. Qu'est-ce qui est encore érotique aujourd'hui, selon vous?
Tout ce qui a rapport à la cuisine me semble érotique. Et j'ai toujours cette fameuse référence de la grande bouffe en tête qui m'a profondément marquée étant plus jeune. Et c'est pour ça que ça m'a semblé essentiel de proposer un repas dans ce festival. Un repas vraiment avec une présentation et une vraie réflexion sur la thématique.
Et concernant les photographies, vous êtes photographe aussi. Qu'est-ce que vous avez concocté pour ce festival?
Alors j'ai repris une série que j'avais déjà réalisée avec des personnes en situation de handicap. C'est-à-dire reprendre des tableaux de l'histoire de l'art assez célèbres et de les détourner ensuite. Alors cette fois-ci de manière érotique.
Merci beaucoup Roxane Gauthier, bon festival à vous.
Merci, merci beaucoup.
Et pour vous donner un avant-goût de ce que l'on peut trouver à Bèze, je vous propose d'écouter Grimace ratatinée, un rime à grâce matinée de Bobby Lapointe, lu par les comédiens Denis Lavant.
T'en souvient-il tordu? La grâce matinée, que tu vécus un jour de mars en Gâtinais, dans cet ancien buffet de gare estaminet, de désir une garce t'animait, t'offrant son trou disant « gratte ça, minet ». Ton pied que tu enfouis jusqu'au tarse gaminet, fouillait jusqu'à son épigastre marinet, mais chez ces vieux boudins l'orgasme tard y naît. C'est pourquoi ces foutues pétasses graminées recherchent des méchants aux âmes gratinées. Mais youpi, tout soudain ta braguette s'animait et jaillissant ton gros cigare se matinait de violet, étalant sa masse gratinée pour gicler d'un jus clair 3 grammes satinés, puis pof, s'affaler fugace martinet qui fit dire au vieux tas. Ma grâce t'a minée. Ouais, elle est gratinée, ta grâce matinée.
Dany Legras, merci beaucoup pour ce journal de la culture. On vous retrouve lundi, il est 8h37.
France Culture, les matins d'été, Lucas Manger.
Culture aujourd'hui, Stéphane de Mesnildo, nous allons parler d'un film, un grand film, un film culte, L'Empire des Sens, le film de Nagisa Oshima, sorti en 76. Pourquoi est-ce qu'on en parle ce matin? Parce que cette semaine sort une nouvelle version, dite remasterisée, donc d'excellente qualité, en traduction en français, est disponible pour être justement rediffusée dans des cinémas et sur des télévisions modernes. Bonjour à vous.
Bonjour.
Vous êtes critique au Cahier du cinéma, spécialiste du cinéma asiatique, auteur de plusieurs livres sur le cinéma japonais. On va revenir à l'histoire qui se déroule dans le film d'abord, avant de parler de l'histoire du Japon. Le film se déroule en 1936 à Tokyo. Le propriétaire d'une auberge remarque une de ses servantes et démarre là une histoire sexuelle entre eux, mais pas seulement sexuelle, mais tout le film est l'histoire de leur relation passionnée, passionnelle, sexuelle et donc tragique. Ce film, Stéphane, sort en 76 en France, il est même présenté à Cannes. Et à Cannes, c'est un choc, alors qu'au Japon, c'est un scandale absolu.
Oui, bien sûr, puisque Oshima, de toute façon, est un habitué des scandales, donc il devait atteindre un scandale énorme au Japon, qui était un scandale sexuel. Le cinéma japonais est un cinéma qui a produit beaucoup de films érotiques, mais avec toujours un certain nombre de tabous, et le tabou principal étant la représentation directe d'un acte sexuel, la représentation réelle. Et évidemment, ça va causer un scandale national. Je crois qu'il n'y a jamais eu d'œuvre d'art au Japon qui a causé un tel scandale.
Ouais. Et donc quand il le sort, il brave la censure japonaise?
Le film est français de toute façon, il est produit par Anatole Doman. Donc ensuite, lorsque le film sort au Japon, il est mutilé, il y a des flous, des grattages de pellicule sur les actes sexuels. Et Oshima va se retrouver inculpé, il va y avoir un procès. Mais comme le gouvernement ou la censure japonaise ne peut pas faire de procès sur le film lui-même, qui est de toute façon mutilé, ça fait un peu bizarre de parler de mutilation.
Oui, à propos de l'Empire des Sens, mais oui. Bon.
Ils vont le faire sur un livre qui raconte l'histoire du tournage, qui présente le scénario du film et qui a des photographies. Et ces photographies présentent des poils pubiens. Donc c'est à partir de là que Oshima va se retrouver inculpé, le procès va le marquer à vie.
Pour revenir au film, avant de revenir au réalisateur, c'est effectivement là qu'il y a quelque chose de nouveau. C'est que ce film, on l'a dit, est une série de scènes de sexe qui sont des scènes crues et non simulées.
Oui. En fait, Oshima, son principe, je pense, est de faire un film pornographique comme si la pornographie n'existait pas. C'est-à-dire de couler l'acte sexuel de façon extrêmement naturelle, c'est-à-dire qu'on ne verra pas d'énormes gros plans ou de choses outrées. C'est quelque chose d'extrêmement naturel et finalement d'extrêmement amoureux, surtout.
Qui est d'ailleurs filmé la plupart du temps en plan très fixe. Il y a une photographie extraordinaire dans ce film, avec une certaine distance, mais effectivement, la volonté de faire en sorte que ce soit... c'est raconté comme on respire, quoi.
Oui, tout à fait. Donc, combattre la pornographie à l'intérieur de la pornographie, je pense que c'est ça qui a causé en fait le plus grand scandale, puisque on se retrouvait devant un film, je dirais pas normal, mais un très très beau film qui en même temps était d'une franchise absolue sur les actes sexuels.
Et quand il sort en France, alors que se passe-t-il ?
Lorsqu'il sort en France, il devient un film culte.
Donc 76, en fait. Festival de Cannes.
Oui. Oui, c'est considéré. De toute façon, en France, la pornographie est libérée. Donc, il y a des films porno qui sortent dans les grandes salles. Il n'y a pas encore le ghetto du X, la loi X. Donc, c'est quelque chose qui participe d'une libération des mœurs. Voilà. Et les intellectuels français, comme Dominique Horry, c'est-à-dire Pauline Réage, l'auteur de l'Histoire d'eau, André-Pierre de Mandiargues, toute cette culture qui vient du surréalisme, vont être absolument fascinés par ce film, où ils vont, évidemment, le prénom Sada de l'héroïne leur rappelle des choses, même si Sada est un nom très courant au Japon. Donc, ils vont voir Bataille dans l'Empire des Sens, Roland Barthes, évidemment, puisque l'Empire des Sens renvoie, évidemment, l'Empire des Signes.
Mais justement, ce film, au-delà de sa première lecture pornographique, est vu notamment par le public français comme un film politique.
Oui, bien sûr, c'est un film politique. C'est-à-dire que les personnages vont recréer leur propre empire, qui est un empire sensuel, donc à l'intérieur d'une série de chambres d'hôtel, de chambres d'auberge plutôt. C'est une vingtaine de chambres qui vont être 20 chambres où va se dérouler une cérémonie d'amour, en quelque sorte. Mmh. Donc ça va être leur empire en opposition à l'empire japonais, dont on voit une scène qui est magnifique. Hein. C'est Kichi, le héros, qui est complètement émacié, malade, puisque ça fait des jours qu'ils ne sortent plus de leur chambre et qu'ils se nourrissent comme des vampires, littéralement, de leur amour et de leur propre chair. On le voit complètement émacié, croiser une troupe de soldats.
Il sort d'une auberge, au petit matin, à l'aube.
Oui. Et il croise, sans les voir quasiment, hein, une troupe de soldats qui sont des jeunes gens, vierges, sans doute, qui vont aller mourir en Russie, en Mandchourie, voilà, sur ordre de l'empereur. Et donc on peut dire que Kichi et Sada, mais surtout Sada, sont des figures extrêmement, quasiment insurrectionnelles, ou en tout cas rebelles, contre ce Japon belliciste, viril, masculin, avec ces jeunes garçons qui vont aller mourir pour rien, qui vont détruire leur corps avant même d'avoir fait l'amour, pour une simple idée qui n'a pas de sens. Et donc c'est pour ça que je pense que L'Empire des Sens est un film très 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 contemporain, hein, lorsqu'on voit évidemment avec le djihad et ce genre de choses, des jeunes qui vont aller mourir aussi pour quelque chose qui n'existe pas. Je pense que c'est un film qui est encore très très brûlant, hein, de nos jours.
Parce que revenons à la jeunesse du film, donc qui sort en 76, qui raconte une histoire qui se passe en 1936, donc effectivement un moment où le Japon est en guerre, mais en plus il se base sur un fait divers qui est un fait divers qui a totalement bouleversé le Japon. L'histoire que raconte L'Empire des Sens est partiellement vraie, en tout cas se base sur un fait divers. Vous voulez nous le raconter?
Tout à fait. Donc c'est une jeune femme qui s'appelle Sada Abe ou Abe Sada, qui a une vie qui est pas très marrante, puisqu'elle a été geisha, elle a été aussi elle a travaillé dans des bars, elle a été violée par les patrons, enfin bon. Donc c'est une vie qui est assez triste, et qui rencontre cet homme dont elle tombe passionnément amoureuse, donc qui est Kichi. Et ce que raconte l'histoire est à peu près l'histoire qui lui est arrivée, puisqu'elle a écrit ses biographies, il y a eu des procès-verbaux. Et donc il s'engouffre dans une passion amoureuse qui n'est pas une vraie passion. Donc le film le montre bien, ils sont extrêmement heureux en fait, hein, dans le film. C'est ça aussi qui est très troublant et très beau, hein. Il y a une joie, hein, dans leurs actes d'amour. Et elle va en effet ils vont aller jusqu'à la mort. C'est-à-dire qu'elle va l'étrangler, puis elle va le castrer. Alors elle était assez pragmatique, elle disait oui, j'aurais aimé emmener son corps en entier avec moi, mais donc c'était pas possible, donc j'ai pris ce que j'aimais le plus chez lui. Et elle va être arrêtée par la police, et tous les procès-verbaux disent qu'elle avait un sourire éclatant sur le visage.
Donc, il y a une photo.
Il y a une photo qui est bouleversante, où elle est avec les policiers qui sont aussi très très, qui ont un visage tout à fait étonnant, et elle est en effet... Elle a un visage de bonheur total. Et donc, elle est arrêtée en 1936. Elle est condamnée à 6 ans de prison, ce qui est pas beaucoup.
Ce qui est pas beaucoup pour un meurtre, un assassinat, quand même.
Oui. Et parce qu'en fait, il y a eu l'opinion publique a pris fait et cause pour elle. C'était vraiment une héroïne, une vraie héroïne à ce moment-là. Et elle sort en 1940, même elle fait pas sa peine tout à fait en entier. Elle sort le 17 mai, ce qui est le jour de la mort de son amant d'ailleurs, à l'anniversaire. Et elle va vivre au Japon, c'est-à-dire qu'elle va, reprendre sa vie normale. Et elle va devenir une héroïne dans les années 60, au moment de la contre-culture.
Mais elle est serveuse, c'est ça? Elle est serveuse, oui. Je crois, dans un bar.
Elle est serveuse dans un bar, et il y a tous les acteurs de la contre-culture, c'est-à-dire le danseur Tatsumi Jikata, par exemple, des personnages aussi qui aiment beaucoup le surréalisme, qui vivent au Japon, et Oshima lui-même, d'ailleurs, quand il prépare son film, qui vont lui rendre visite. Voilà, elle est une sorte de figure du Tokyo de cette époque. Et elle disparaît en 71, donc on ne connaît pas vraiment la date de sa mort.
Elle se retire du monde.
Elle se retire du monde, oui, tout à fait. Donc on peut penser qu'elle a vu l'Empire des Sens, par ailleurs. Hein, si elle a vécu, on peut imaginer, elle n'avait que 66 ans, hein, en 71. On peut penser qu'elle est allée voir le film qui raconte sa vie.
Et ce qui est d'ailleurs, ce qui montre aussi à quel point à ce moment-là, on parle de nouvelle vague japonaise. C'est-à-dire qu'il y a le film est produit en France par les producteurs qui ont produit beaucoup des films de la nouvelle vague française.
Oui, tout à fait. Oui.
Mais il y a donc parallèlement une nouvelle vague japonaise qui s'inspire de cette nouvelle vague française.
Oui, et Oshima est un peu une figure équivalente à Godard. Hein. C'est le cinéaste le plus révolté, le plus expérimental, celui qui fait aussi les plus beaux films. La nouvelle vague japonaise, au départ, c'est un mouvement qui est créé par les studios, qui se dit, bon, ben voilà, il y a ces cinéastes français qui n'ont pas beaucoup d'argent, mais qui remportent des succès mondiaux, et qui parlent directement à la jeunesse. Nous, on peut faire au moins la même chose au niveau local, et donc ils produisent quelques films avant de se rendre compte que ces cinéastes-là ne sont justement pas des cinéastes de studio, réellement. Ce sont vraiment des jeunes qui en veulent et qui veulent vraiment montrer la réalité politique du Japon. Et ils vont vite prendre leur indépendance et créer réellement la nouvelle vague japonaise, c'est-à-dire avec des tournages très légers dans Tokyo, en 16 mm, avec des sujets très audacieux, comme il y a quelqu'un qui s'appelle Tatsuo Matsumoto, qui tourne Les Funérailles des Roses, qui est le premier film sur l'homosexualité tourné au Japon, avec des travestis, etc. Donc ils abordent vraiment des sujets très très importants. Et Oshima, quant à lui, va développer une série de films qui sont basés sur des faits divers, par exemple. C'est quelque chose qui l'intéresse beaucoup, de travailler le Japon, justement, sur sa phase criminelle. Et donc ouais. Ça va amener à l'Empire des Sens.
L'Empire des Sens s'inscrit dans cette lignée-là, mais est-ce que, justement, l'Empire des Sens est l'aboutissement ou le point culminant de la nouvelle vague japonaise? En tout cas, est-ce qu'il est perçu comme tel?
C'est quasiment sa fin, en quelque sorte. Hein. On le voit, le film est produit par la France, donc c'est-à-dire que même le Japon a changé, on est en 76, c'est-à-dire que la contestation est terminée. Mishima, qui lui fait partie d'un autre courant, mais qui quand même se rattache aux années 60, s'est suicidé. Donc il y a une sorte d'abandon du politique pour se tourner vers le capitalisme et le consumérisme frénétique, en quelque sorte.
Parce que ce film montre aussi un Japon ancien, c'est-à-dire c'est un moment où le Japon est en train de se transformer beaucoup. Parce que, pour revenir à l'histoire réelle dont s'est inspiré le film, cette femme montre aussi, si son histoire a une telle portée, et que d'ailleurs, comme vous le soulignez, l'opinion publique japonaise la soutient, c'est parce que d'une certaine manière, elle s'affranchit aussi d'un ordre quasiment médiéval, de classe, qui perdurait encore au Japon extrêmement tard.
Oui, dans l'empire des sens de Kichibei, il n'y a plus de classe sociale, il n'y a plus d'empereur, il n'y a plus que le désir.
Oui, mais justement, le fait qu'il n'y ait plus d'empereur, plus de classe sociale, montre à quel point ce fait divers des années 30 avait permis à la population de se dire, est-ce qu'il y a autre chose?
Oui, tout à fait. Ce sont des, c'est le moment où, en effet, il y a la contestation entre dans le pays. Ça, c'est vrai qu'il y a des vagues de contestation qui vont être de toute façon étouffées par la Seconde Guerre mondiale qui arrive très rapidement.
Bah écoutez, un extrait du film qui ressort cette semaine.
Kurushii no kai. Kimochii no kai.
Mata.
La musique a une place très importante aussi dans ce film.
Oui, c'est Toru Takemitsu, qui est un des plus grands compositeurs japonais, qui a accompagné Oshima très, très, très souvent. Et les films de la Nouvelle Vague en particulier, où en effet, c'est un très, très grand compositeur. Et c'est une musique à la fois traditionnelle, expérimentale, et qui retranscrit tout à fait le style du film, qui est aussi sur ces deux voies. C'est-à-dire que c'est un film, lorsque l'Empire des Sens se crée réellement, qui devient de plus en plus stylisé, de plus en plus théâtral. Ça, c'est quelque chose qu'Oshima sait très bien faire, hein, d'évoluer dans les différentes formes de théâtralité japonaise. Et les 20 dernières minutes du film, qui se déroulent quasiment à l'intérieur de la chambre.
À huis clos, oui.
Ouais, à huis clos jusqu'au dénouement. Hein, c'est une scène de théâtre absolument bouleversante.
Avec sûr. Aussi justement des références au théâtre japonais en permanence.
Oui, au théâtre japonais, au théâtre kabuki, évidemment, avec ces éclairages très 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 stylisés. Enfin, tout devient une scène de théâtre de toute façon au bout d'un moment.
Pourquoi ressortir ce film aujourd'hui? Quel est l'intérêt de ressortir une version, comme je le disais tout à l'heure, remasterisée, donc une version modernisée, c'est-à-dire d'une qualité technique absolument irréprochable? Quel est l'intérêt?
Alors il y a un intérêt, comme je disais, qui pour moi c'est un film qu'il faut redécouvrir tout le temps, puisque la période de libération sexuelle ou de libération des mœurs, c'est quelque chose dans l'impression qu'elle est toujours combattue, hein, toujours à l'heure actuelle. Donc c'est toujours bien. C'est toujours bien de montrer que le désir peut s'incarner réellement, voilà, sans passer aussi par la pornographie et ses codes. Et dans le cas de précisément l'Empire des Sens et du style de Shima, il y a quelque chose dans ces restaurations qui est très très beau, c'est la peau. Oshima est un très grand cinéaste de la peau. Et lorsqu'on voit, par exemple, la peau blanche des acteurs lorsqu'ils commencent à être vraiment dévorés par la passion, ou alors leur peau luisante de sueur et de désir, l'incarnation, ça c'est quelque chose qui mérite vraiment de pouvoir s'y plonger sur un très très grand écran.
Un film comme celui-ci pourrait-il passer de nouveau à la télévision, dans des cinémas? Parce que c'est aussi un peu le but quand on sort ce genre de version. C'est-à-dire que les versions anciennes, enfin originelles de l'Empire des Sens, ne sont plus diffusables dans des cinémas modernes ou sur des canaux de télévision moderne.
L'Empire des Sens, c'est curieusement un film qui passe assez souvent à la télévision. Il passe sur Arte. C'est peut-être le seul film avec des scènes pornographiques à passer sur une chaîne de télévision.
But c'est quoi? C'est de le ressortir au cinéma?
Oui, c'est de le ressortir au cinéma en fait, parce que ça marque quand même. Hein, découvrir l'Empire des Sens sur grand écran, comme moi je l'ai découvert quand j'avais une vingtaine d'années, c'est vraiment une expérience sensuelle en fait. Hein. C'est-à-dire qu'on sent, on est très proche d'une sensation en fait qu'on ne pourra jamais avoir devant un écran de télévision.
Dans un monde justement où la pornographie n'a jamais été aussi accessible facilement d'un clic de souris sur un ordinateur, l'Empire des Sens amène une vision totalement différente.
Oui, totalement différente. En plus, parce que ça fait, comme je disais, c'est un film pornographique contre la pornographie, ou en tout cas qui ne s'embrasse pas des codes pornographiques. Et c'est surtout un film d'une grande beauté. Je pense que la différence se fait à ce niveau-là.
D'une grande beauté technique et d'une grande beauté, ce que vous disiez sur la qualité de l'image aussi, qui est absolument impressionnante.
Oui, oui.
Et que cette version remasterisée permet de mieux découvrir.
Oui, bien sûr. Hein, il faut voir les séquences de crépuscule, parce qu'il y a une grande attention au changement climatique, à la lumière du soleil qui baisse. Voilà, tout ce qui permet d'enfermer dans un rêve, en fait, les deux amants. Oshima disait, je veux atteindre un point où on ne distingue plus le rêve de la réalité.
Sur cette belle phrase, Stéphane de Mesnindo, merci infiniment. Je rappelle que vous êtes critique au Cahier du cinéma. Merci d'être venu parler de l'Empire des Sens.